Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. En 50 ans d'amitié, vous avez multiplié des souvenirs haut en couleur sur une dame en noir, Juliette Gréco. Vous racontez dans un livre celle qui symbolise la chanson française, la vraie dans le monde entier. Bonjour Françoise Piazza.
Bonjour Jacques.
Alors, il y a un livre qui sort, Entrer dans la lumière, chez l'Archipel, aux éditions de l'Archipel. Un livre qui symbolise 50 ans d'amitié, car vous êtes une vraie amie de 50 ans de Juliette Gréco, François.
Oui, oui, j'ai rencontré Juliette lorsque j'avais 19 ans, à Bobino, et Juliette en avait 41. Et depuis cette année-là, nous ne nous sommes jamais lâchés la main.
C'est fabuleux, c'est une vraie amitié au-delà de la chanson.
Ah oui, bien au-delà de la chanson, une amitié de la vie quotidienne, de ses jours partagés... À Verderon, à Ramatuelle, de rendez-vous au bout du monde. Enfin, vraiment, vraiment, on s'est toujours vu, toujours parlé, jamais quitté.
Eh bien, nous, on ne quitte pas Juliette Gréco et on ne vous quitte pas puisqu'on va l'évoquer à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, Françoise Piazza, d'ailleurs, elle est citée dans votre livre, c'est le 22 juin 1949. C'est un récital méconnu au Bœuf sur le Toit.
Oui, c'est la première fois que Juliette chante. C'est la première fois que Juliette chante en public et elle est totalement terrorisée.
La panique totale.
C'est la panique totale. C'est la panique totale. Et voilà. Et il y a dans l'assistance beaucoup de gens importants qui vont tout d'un coup se prendre d'amour pour elle.
Alors, le Bœuf sur le Toit, il faut savoir que c'est un cabaret des années 20, créé au départ en hommage à un ballet dont Jean Cocteau a fait le livret. Mmh. Et le Bœuf sur le Toit, c'est de là où vient l'expression « faire un bœuf », car les musiciens se retrouvaient sur scène pour improviser. On appelait ça « faire un bœuf ».
Oui, oui, j'ai vu ça, c'est drôle.
Alors, finalement, Juliette Gréco, tout a commencé, et elle était très timide, quand Anne-Marie Casalis lui conseille d'écouter Jean-Paul Sartre qui veut lui proposer des chansons.
Oui, Jean-Paul Sartre lui a dit un jour « Alors Gréco, vous chantez ?» Elle dit « Mais non monsieur, je ne chante pas, il n'en est même pas question. » Et puis son amie de l'époque, Anne-Marie Casalis, l'a en effet poussée dans cette voie, et elle a bien fait.
Voilà, et c'est ainsi qu'un matin, chez Sartre, Gréco a lu des paroles d'une chanson qui est devenue celle-ci.
Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines, que ça va, que ça va, que ça.
C'est-à-dire que cette chanson est dans un film de Jacques Baratier qui s'appelle Désordre, je crois, Françoise Piazza. Et cette chanson, elle apparaît tout de noir vêtue parce que c'est son armure pour Juliette Gréco.
Oui, enfin, c'est surtout qu'elle n'avait pas d'argent. Et que c'était ses compagnons de chambrée, je vais dire, qui lui prêtaient leurs costumes. Donc, on lui donnait des pantalons, on lui donnait des chaussures, tout ça était noir. Et elle entrait là-dedans dans une seconde peau parce qu'elle n'avait rien d'autre.
Voilà. Et c'est comme Aznavour qui portait des chemises noires au départ parce qu'il n'avait pas d'argent et elle se salissait moins vite que les chemises blanches.
C'est ça, mais Juliette marchait avec des chaussures en raffia qui étaient trempées par la pluie.
Mais elle marchait et ça a marché pour elle. Le premier grand succès, ça a été La Rose Rouge, un cabaret aujourd'hui disparu rue de Rennes, et qui était c'est Nico Papatakis qui avait fait le premier café théâtre de Paris à l'époque.
Oui, c'est ça, c'est lui qui va épouser après Anouk Aimé.
Voilà, et Juliette a débuté à La Rose Rouge avec les frères Jacques, avec Yves Robert et Lemine Marceau.
Oui, c'est ça, c'est un souvenir qui lui était très très cher.
Pourquoi ?
Eh bien parce que justement, c'était des gens qui débutaient tous ensemble.
Et les frères Jacques, elles étaient très surprises par leurs costumes, je crois.
Oui, 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 elles s'amusent à dire qu'ils avaient tous les collants, ben, ce que tout le monde connaît, hein, le collant noir et puis le haut, vert, jaune, bleu, rouge, et voilà.
Et finalement, tout avait commencé à Saint-Germain-des-Prés, mais elle est devenue une chanteuse populaire grâce quand elle a chanté beaucoup plus tard à Montparnasse, quelques années après.
Oui, elle est devenue populaire surtout à partir de Bobino.
Voilà.
Bobino a été vraiment, vraiment un démarrage extraordinaire.
Mais vous savez que quand elle était à la Rose Rouge, il n'y avait pas de loge et il y avait une cabine téléphonique et c'est là où Rosie Vart se maquillait parce que c'était l'endroit où il y avait de la lumière.
Oui, 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 c'est ça.
Et Juliette aussi.
Oui, elles ont gardé toutes les deux l'habitude de se maquiller dans un minuscule miroir de poche.
Et alors le public populaire, justement, Gréco, quand elle a débuté à Saint-Germain-des-Prés, elle n'y pensait pas.
Non. Non, non, pas du tout. Vous savez, je ne sais pas si elle pensait à son public, elle ne pensait sans doute pas, certainement pas, avoir un jour l'importance qu'elle a eue.
Tout avait commencé avec une couverture d'un journal samedi soir, qui était l'ancêtre de France Dimanche, justement,
oui.
Où on la voit un soir avec Roger Vadim au sous-sol d'une cave.
Oui, on les voit à l'entrée d'une cave et on dit venez visiter, venez voir la vie des troglodytes.
Oui, et il y a une sorte de chandelle. Et c'est la première fois que le mot existentialiste apparaît, je crois.
C'est ça.
C'est hallucinant comment ça s'est fait, ça.
Mais je ne sais pas. Ça, elle ne m'en a jamais parlé. Ce qu'elle m'a dit vraiment maintes et maintes fois, c'est la chance qu'elle avait eue d'être une jeune fille inconnue et dénuée de toute culture au milieu d'une intelligentsia d'artistes extraordinaires.
En fait, elle fréquentait le tabou, et un soir, son manteau tombe au sous-sol, et elle voit cette cave qui était fermée pour des raisons mystérieuses, et c'est là où la photo a été prise.
C'est ça, le manteau a glissé le long de la rampe, elle est arrivée dans une petite cave un peu humide, avec des sortes de masques, avec des petites ampoules sur les murs, et elle a dit tout d'un coup, ah, et si on faisait un endroit pour nous ?
Voilà.
C'est comme ça.
Et il y a une autre chanson aussi, écrite dans des circonstances particulière et qui est un succès de Joël Gréco.
Je me souviens d'un coin de rue aujourd'hui disparu.
Alors Charles Trenet a écrit cette chanson, je ne sais pas si vous le savez, Françoise Piazza, à table un jour. Il l'a donnée à Juliette et la chanson au départ, le nom de code, c'était Coin de table.
Oui, c'est ça, c'est Coin de table. Oui, je sais. Elle aimait beaucoup Trenet.
Et puis elle aimait beaucoup ce genre de chanson très... pleine d'humanité.
Oui, vous savez, les thèmes de ces chansons sont toujours très choisis, très, très étudiés, très ciblés.
Voilà. Et il n'y a pas que les chansons, on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 6 mars 1965. A tout de suite sur Sud Radio avec Françoise Piazza pour parler de Juliette Gréco.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Françoise Piazza. Entrée dans la lumière, Juliette Gréco, aux éditions de l'Archipel, un livre où vous évoquez 50 ans d'amitié et les coulisses de la chanteuse, mais aussi de la comédienne. Car si je parle du 6 mars 1965, c'est pour une raison précise. Ce soir-là, à 20h30 à la télévision, pour la première fois, il y a ce générique. Belphégor, qui a tenu en haleine la France entière pendant 4 semaines.
Et pas moi, parce que je n'avais pas la télévision à l'époque.
Ah mais moi je m'en souviens très bien, on ne sortait pas le samedi soir, on voulait savoir qui était Belphégor.
Oui, je sais, c'est ce que tout le monde m'a raconté.
Et ça a été un événement important, ce
Belphégor. Oui, et puis surtout que Juliette est partie en tournée au Japon pendant la diffusion de Belphégor. Et lorsqu'elle est rentrée du Japon avec une valise pleine de cadeaux pour ses amis qui n'avaient pas lieu d'être parce qu'elle aurait dû être visitée par la douane, le douanier l'a regardée et lui a dit « Passez, Belphégor !» Et là, elle s'est dit « Tiens, il a dû se passer quelque chose en mon absence. »
Et d'ailleurs, le Louvre, elle avait chanté quelque temps plus tôt, curieusement.
Oui, elle a chanté alors qu'elle attendait Laurence. Elle a chanté au musée du Louvre et elle est revenue en 2016, le 6 février 2016. Elle est revenue, ça c'était absolument extraordinaire, chanter au pied de la Victoire de Samothrace, en plein musée du Louvre. C'est absolument magnifique.
Voilà. Alors le cinéma, on connaît un peu moins la carrière de la comédienne que de la chanteuse. Je crois que c'est Cocteau qui lui a donné sa première chance. Il l'avait entendu chanter et il en a fait une des bacchantes d'Orphée.
Oui, c'est ça, elle joue à Glaonis dans Orphée, absolument.
Et ça a été le point de départ d'une carrière de comédienne à laquelle elle ne pensait absolument pas.
C'est-à-dire que Juliette s'ennuyait beaucoup sur les tournages, parce qu'il faut toujours attendre, et Juliette est quelqu'un de très impatient. Donc ça l'a intéressée, mais ça n'était pas ça. Elle a dit que le contact humain lui manquait trop, que sa vraie vie c'était la scène, et qu'il fallait qu'elle y retourne.
C'est Claude Darget qui disait, enfin, dans une télévision célèbre, le cinéma comme la télévision, c'est 8 heures d'attente pour une minute de génie.
C'est ça.
Alors, il y a eu aussi un autre film important pour elle, c'est Quand tu liras cette lettre de Jean-Pierre Melville, parce qu'elle a rencontré son premier mari.
Elle a rencontré Philippe Lemaire. Elle jouait le rôle d'une religieuse obligée de quitter son noviciat pour aider sa sœur cadette à se débrouiller dans la vie après l'accident de ses parents. Et là, Philippe Lemaire jouait le rôle d'un jeune homme qui tombe amoureux d'elle, un petit malfrat. Et ils se sont rencontrés comme ça, de cette manière-là.
Ils sont mariés, ils ont eu une fille qui s'appelle Laurence.
Ils ont une fille, Laurence.
Et il faut savoir que Philippe Lemaire était un comédien faussement chanteur. Il y a un film de Ray Ventura qui s'appelle « Nous irons à Paris », où il chante des chansons de Paul Mistraki.
Oui, oui, oui.
En fait, doublé par Lucien Jeunesse.
Ah bon, ça je ne savais
c'est
pas.
C'est pas lui qui chante,
charmant,
Lucien.
Cela dit.
Oui, mais c'est Lucien Jeunesse qui chante à sa place.
Ah ben ça, je ne savais pas.
Je suis content de vous l'apprendre. Alors, les amours de Juliette Gréco, ça a souvent défrayé la chronique. Je crois qu'elle avait une réputation de femme fatale, Françoise Piazza.
Oui, enfin, je ne sais pas si elle avait une réputation de femme fatale. Moi, je crois que ça reste quand même au niveau de la réputation. Elle en a peut-être joué, certes, mais les grandes amours, son premier grand amour, par exemple, elle ne l'a jamais évoqué. C'était un coureur automobile qui s'appelait, puisque malheureusement il n'est plus là, Jean-Pierre Vimille, oui. Et qui s'est tué pendant les essais du Grand Prix du Brésil. Je crois qu'elle n'a jamais cicatrisé de cette plaie.
Je crois non plus. Il y a eu aussi Miles Davis.
Magnifique
c'est
histoire.
Une histoire incroyable, ça.
Une histoire incroyable, une histoire très brève, mais une histoire passionnelle extraordinaire qui s'est terminée parce qu'à l'époque, un couple mixte, ce n'était pas possible. En France, c'était déjà difficile, en Amérique, ça ne l'était pas.
Et d'ailleurs, Miles Davis ne s'est jamais remis de sa séparation.
Jamais.
Il est tombé dans la drogue, dans l'alcool, à cause de ça.
Absolument.
C'est assez fou, ça.
Oui.
Et ils se sont retrouvés sur le plateau de Sacrée Soirée un soir. Je crois que ça a été un grand moment d'émotion pour les deux.
Oui, et il est revenu après. Il est revenu rue d'Alésia. Il est arrivé dans sa grande limousine. Il est resté 2 heures. Et quand il est parti, il a dit « Cette femme, de dos, où qu'elle soit dans le monde, je la reconnaîtrai. »
C'est fou. Hein, mais
il est mort pas très longtemps après. Alors, femme fatale, oui, femme fatale. dans ce sens-là.
Voilà. Et d'ailleurs, il y a une chanson qui correspond justement à cette réputation.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi.
Chanson de Juliette Gréco, qui est Françoise Piazza, que Antoine Decaune dit c'est ma chanson préférée.
Oui, Antoine Decaune adore cette chanson, bah oui.
Alors elle s'est souvent déshabillée, elle disait qu'elle se mariait, mais uniquement pour faire plaisir à ceux qui la demandaient en mariage.
Mais c'est vrai, elle dit, mais moi ça m'est égal, de toute façon je ne me suis jamais appelée Juliette Lemaire, Juliette Piccoli, Juliette Joannès, je suis Juliette Gréco, mais si ça peut leur faire plaisir, pourquoi pas.
Voilà. Et justement, Michel Piccoli, je crois qu'il y avait à l'époque l'ancêtre des 7 d'or, qui était un dîner organisé par Télé 7 jours, par Jean Divault, le directeur,
oui, oui.
Et elle s'est retrouvée à côté de Michel Piccoli.
Oui, elle s'est retrouvée à côté de Michel Piccoli, ils ont commencé à parler, ils se sont rapidement séduits, et ils se sont non moins rapidement unis.
Voilà. Et il y a eu une autre histoire d'amour, mais qui aurait pu durer encore plus longtemps, c'est Daryl Zanuck, le plus grand producteur d'Hollywood, mais je crois qu'il a voulu l'enfermer.
Oh bah, il l'a enfermé complètement, c'est-à-dire qu'il est venu habiter à côté de chez elle, rue de Verneuil, il lui a mis des sbires en bas de son hôtel particulier pour la surveiller. Alors vous savez, c'est pas le genre.
Non, et donc si elle avait suivi Zanuck, elle aurait fait une immense carrière à Hollywood, Juliette Gréco.
Oui, peut-être, mais je crois qu'elle n'en avait pas envie non plus.
Je crois pas,
elle
préférait sa liberté. Et ses amours, justement, bah, y a une chanson qui symbolise les histoires d'amour qui se brisent, c'est les feuilles mortes.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis.
Et là, dans ce livre, vous racontez Françoise Piazza qu'elle met au point quelque chose de très important. Juliette Gréco, ce n'est pas Yves Montand, mais Cora Vauquer qui a créé cette chanson.
Mais bien sûr, elle adorait Cora. Cora l'aimait beaucoup aussi. Et on disait toujours que c'était Yves Montand qui avait créé Les Feuilles Mortes. Et ça mettait Juliette dans une rage absolue. D'abord parce qu'elle n'est pas extrêmement fan d'Yves Montand, il faut bien le dire. Enfin, en tout cas, de l'homme.
Elle l'a dit à Simone Signoret un jour. Oui.
Elle l'a dit de manière extrêmement claire et de manière assez violente. Mais il faut rendre à Cora ce qui est à Cora. Cora a enregistré Les Feuilles Mortes alors que personne n'en voulait. En disant, ça me plaît parce qu'il n'y a pas couplet-refrain, il n'y a pas couplet-refrain, ça me plaît.
Et cette chanson, en fait, Édith Piaf, un jour qui rompait avec Yves Montand, a demandé à Marcel Carné d'engager Yves Montand dans son film Les Portes de la Nuit, où il y a eu Les Feuilles Mortes. Le film c'était surnommé Les Portes de l'Ennui, tellement il était ennuyeux.
Oui, c'est vrai.
Et il a mis 4 ans pour que la chanson marche.
Ah, ça, je ne savais pas.
Ah oui, pendant 4 ans, il l'a mis dans ce récital, personne ne voulait des Feuilles Mortes. Et puis, il y a une autre chanson aussi qui compte beaucoup pour Juliette Gréco, liée à un personnage qu'elle a rencontré.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne.
La chanson de Prévert.
Ah, pardon.
Et la chanson de Prévert, Jacques Prévert, ça a été aussi une rencontre importante pour Jeanne Gréco.
Elle l'a rencontrée dans le sud, elle l'a rencontrée à Saint-Paul-de-Vence en se baladant sur un chemin de campagne. Et il s'est arrêté, il a dit c'est vous qu'on appelle Gréco, moi c'est Prévert. Il a invité Juliette chez lui, et il était en train de faire des collages. Il lui a offert un somptueux petit déjeuner, ils ont bavardé et elle est repartie en tenant ce beau cadeau contre son cœur.
C'était un souvenir magnifique.
Magnifique.
Mais en même temps, Prévert était un personnage qui avait ses amis et ses ennemis, il était copain avec Montand, mais il n'a jamais organisé les retrouvailles Montand-Gréco.
Non, ça c'était pas une chose possible.
En revanche, cette chanson de Prévert, elle lie à quelqu'un qui est Serge Gainsbourg. Alors on sait que les liens entre Gainsbourg et Juliette Gréco, et vous racontez dans votre livre, Françoise Piazza, qu'en fait, la première rencontre, c'est une interview pour la télévision.
Oui, c'est ça. Elle interview Gainsbourg et elle le pousse un peu dans ses derniers retranchements avec son sens de l'humour, son sens de la dérision. Et c'est assez drôle. Et après, la grande rencontre, c'est évidemment la Javanaise, dont on oublie souvent qu'elle a été écrite pour Juliette. Elle a été offerte à Gainsbourg, à Juliette par Gainsbourg, pour elle.
Et la Javanaise qu'on écoute.
En dansant la Javanaise, nous aimions le temps d'une chanson.
Alors cette chanson, je crois, a une histoire. Françoise Piazza, vous m'arrêtez si je me trompe. Gainsbourg, un soir, va chez Gréco. Il boit un petit peu de champagne. Il a une feuille dans sa poche. Il sort cette feuille. C'était les paroles de la Javanaise qu'il avait écrite. Ils ont dansé jusqu'au matin et elle a répété cette chanson.
Moi, on m'a dit qu'elle avait bu du champagne avec Gainsbourg. Elle m'a dit avoir bu du champagne avec Gainsbourg. Que Gainsbourg était rentré chez lui et que le lendemain matin, il l'avait appelé en disant « J'ai quelque chose pour vous, j'ai une chanson pour vous ». Mais on ne m'a pas dit que le texte était déjà dans sa poche.
Dans sa poche.
Et alors, je ne sais pas.
C'est la légende. Et on sait que le lendemain, il a envoyé des roses rouges justement.
Ça, c'est vrai.
À Juliette. Et la chanson est devenue un immense succès.
Immense. Alors, magnifique.
Les auteurs, c'est très important pour Gréco. Elle les respecte. Elle considère qu'il faut les choyer, les gâter, parce que sans les auteurs, on n'est rien.
Il y a des auteurs qui sont extraordinaires et méconnus. Moi, je voudrais dire deux mots sur un auteur que Juliette aime particulièrement, c'est Richard Canavaux.
Oui.
Richard Canavaux qui a écrit deux chansons, Lola la Rengaine, oui, et surtout Les années d'autrefois. Les années d'autrefois, c'est une chanson qui n'a jamais quitté le répertoire de Juliette et qui la symbolise vraiment très bien.
Oui, et elle a d'ailleurs elle-même écrit des chansons qu'elle n'a jamais chantées, Juliette Gréco.
Alors si, elle a enregistré 4 ou 5 chansons à la fin des années 70, et elle en a enregistré une sans musique sur son dernier disque, et la musique n'est pas arrivée à temps.
Oui, mais la chanson existe. Et il y avait eu un autre artiste qu'elle adorait, mais qu'elle ne chantait pas, sauf devant des amis, Juliette Gréco, c'était Tino Rossi.
Ah oui, ça l'amusait beaucoup de chanter Tino Rossi. Mais non, ça, elle n'a pas été jusqu'à l'enregistrer. Même lorsqu'elle a enregistré le temps d'une chanson, vous savez qu'elle s'est amusée, par exemple, à enregistrer Over the Rainbow.
Oui.
Ah, bon, eh bien non, là, elle n'a pas été jusqu'à chanter Tino.
Elle a chanté d'autres choses et vous en parlez dans ce livre dont on va parler dans quelques instants à travers une autre date, le 16 janvier 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Françoise Piazza pour parler de Juliette Gréco.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Françoise Piazza. Vous avez sorti le 16 janvier 2020, Juliette Gréco, Entrée dans la lumière, aux éditions de l'Archipel. Un livre intime sur Gréco, un livre d'amour pratiquement.
Oui, je ne cache pas, c'est un livre d'amour. C'est un livre d'amour, cette femme m'a tout donné. Elle m'a donné 50 ans d'une amitié absolument fabuleuse. Elle m'a appris la tendresse, le rire, la tolérance. Elle m'a tout donné, donc à moi de tout lui rendre.
Oui, ce qui est assez étonnant, c'est que cette femme en noir, qu'on prend pour quelqu'un de très sérieux, adore rire.
Non, mais elle est très très drôle. Vous savez qu'elle faisait des... Moi, j'aime bien raconter cette histoire, mais avec Françoise Sagan, elle faisait un pari dans une garden party ou je ne sais où. L'une a dit à l'autre, je ne sais plus laquelle, « Chiche, que tu ailles pincer les fesses de Madame Coupe de Murville. Ben, » L'autre y est allée.
Qui était la femme du ministre, voilà.
Oui, bien sûr.
Non, mais elle adorait ce genre de choses. Et ce livre, vous montrez une Gréco méconnue. Parce que, et à chaque fois que je l'ai interviewée, j'ai remarqué ce côté pudique. Exemple, quand sa fille, qui a disparu, Laurence, était très malade, elle n'en parlait jamais.
Non, elle n'en parlait pas. Moi, elle me disait simplement, « Tu sais, je suis sûre que Laurence va mourir avant moi. » Et j'essayais de calmer son inquiétude comme je pouvais. Mais voilà, c'était difficile. Non, non, elle n'en parlait pas, bien sûr que non.
Elle parlait aussi très peu, sauf à vous et à quelques intimes, de son père, qui a été très absent dans sa vie.
J'ai trouvé, moi, un jour, dans une agence photo pour un précédent livre sur Juliette, deux photos de son père. Je lui ai apporté, je lui ai dit, regarde, j'ai trouvé deux photos de son père. Et elle m'a dit, oh, mais tu peux les garder, tu peux même les jeter si tu veux. Moi, je n'en veux pas, il ne s'est pas intéressé à moi, donc moi, je ne m'intéresse pas à lui.
Elle a même failli se noyer à 5 ans.
Mais oui, elle était sur la plage avec lui. Elle l'a vu deux ou trois fois dans sa vie, c'est pas de chance quand même.
Oui.
Il l'emmène à la plage, elle ne savait pas nager, elle commence à aller dans l'eau et elle commence à se noyer. Et lui, de la plage, voit cet enfant en danger. Il se retourne et il dit aux gens qui étaient là, est-ce que quelqu'un peut aller sauver ma fille? Parce que moi, j'ai des chaussures toutes neuves.
Et quand vous parlez de Juliette Gréco aussi, elle avait une idole, c'était son grand-père, Françoise Piazza.
Oui, son grand-père était vraiment son soleil. C'était son soleil. C'était l'être auquel elle s'est raccrochée jusqu'à ce que malheureusement, il disparaisse lorsqu'elle avait 8 ans.
Et elle avait aussi une collection enfant qu'elle a conservée adulte. C'est celle des ours en peluche.
Oui. Alors son ours en peluche s'appelait Oursine. Et Oursine, comme tous les ours en peluche que vous et moi, nous avons eus, un ours, avec les années, s'abîme. Et quand Oursine s'est abîmée, sa mère l'a jeté.
C'était le drame pour Juliette Gréco.
Ça a été un drame parce que Oursine, c'était le confident, la confidente, je ne sais pas si elle en faisait un garçon ou une fille, de tous ses chagrins d'enfant, et Dieu sait si elle en avait. Alors après, il y a une jeune fille de 16 ans, dans un pays de l'Est, qui est venue vers elle à la fin d'un concert, et qui lui a dit, je n'ai rien madame, je n'ai que cet ours, alors je vous le donne, un tout petit ours, qu'elle a appelé l'ambassadeur, et qu'elle gardait toujours dans sa valise de tournée. Et après, on lui a tous offert des ours en peluche. Elle en avait, mais je ne sais pas, 500, 600... Il en reste un ramatuelle, il y a un canapé, il y a plein de petits ours en peluche. La dernière fois, je suis descendue, je lui en ai encore donné.
Voilà, et je crois que maintenant, elle a un petit chien avec lequel il joue aussi avec ses ours en peluche.
Elle a un petit chien qu'elle a baptisé du nom de Rosebud, parce que c'est son film préféré, c'est Citizen Kane.
Et Orson Welles, qu'elle a connu.
Bien sûr.
À Hollywood. Et puis, il y a aussi, dans ce livre, vous racontez un personnage très important pour Juliette Gréco. C'est sa gouvernante.
Julia, qui est toujours, vivante, Dieu merci, une femme absolument extraordinaire, qui chantait, qui mettait la joie dans la maison, et que Juliette traitait sur un total pied d'égalité. Et ça, c'est parce qu'elle avait vu sa grand-mère traiter très mal les domestiques, mais vraiment les traiter de manière absolument abominable. Et ça l'avait tellement bouleversée qu'elle avait pris le contre-pied total. Et Julia et Juliette, il fallait les voir ensemble.
Oui, et elle riait beaucoup. Et je crois même que Julia chantait souvent cette chanson.
Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson,
vous l'avez
un petit
le livre
oiseau,
précédent.
C'est d'amour tendre.
Cette chanson, elle est fabuleuse. C'est vraiment une chanson qui est un classique de Gréco. Cette chanson, le monde entier l'a fredonnée.
Ah, oui, même en Chine.
Ouais, c'est fou. Hein. Et puis alors, il y a quelqu'un que vous évoquez qui nous a quittés récemment et qui a été très important dans la vie de Juliette Gréco, Françoise Piazza, c'est Hélène Duc, une grande comédienne.
Hélène Duc, c'est la mère, c'est la mère choisie, c'est la mère idéale, c'est la mère refuge, c'est cette femme qui était le professeur de français de Juliette à Bergerac et qui a accueilli Juliette lorsqu'elle est sortie de la Gestapo.
Oui, car il faut savoir que Juliette a été torturée et a failli se retrouver dans un camp et s'en est échappée parce qu'elle était jeune et pas juive. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ce qui s'est passé, c'est que sa mère et sa sœur sa mère était résistante, elle cachait des juifs en Dordogne, elle s'est fait arrêter. Les deux sœurs ont trouvé donc la maison complètement dévalisée, ont essayé de voir à la Gestapo de Périgueux une trace de leur maman qu'elles n'ont pas trouvée. Elles sont parties pour Paris, elles ont été suivies par un individu assez sinistre qui ne les a pas lâchées. Et Charlotte faisait de la résistance avec sa mère, et Charlotte avait dans un sac qu'elle avait des documents très compromettants. Et Charlotte a été arrêtée place de la Concorde par une estafette, et Juliette avait rendez-vous avec elle. Et elle l'a vue monter dans l'escafette, elle a tapé pour se faire hisser à l'intérieur, et après, elle a réussi à échanger son sac contre le sac de sa sœur, et c'est ce qui l'a sauvée.
Oui, et elle a fini par jeter dans les toilettes ses documents compromettants.
Tout à fait.
Et puis, après la guerre à Saint-Germain-des-Prés, elle a connu des personnages incroyables, Albert Camus, et Marlon Brando, qui l'a ramené sur une mobylette.
Oui, Marlon Brando l'a ramené sur une mobylette.
C'est assez fou, ça. Il était tout jeune débutant, il était fou de Juliette Gréco.
Oui, mais il était surtout... C'était pas du tout un lien amoureux. Hein. Il était fou de Herta Kitt à l'époque.
Oui.
Mais il avait comme ça un grand coup de cœur pour Juliette.
Elle avait de bonnes fréquentations. Et vous avez parlé aussi de Françoise Sagan. Et Françoise Sagan a écrit une chanson pour Juliette Gréco, « 12 oiseaux de la jeunesse ».
Le doux oiseau de la jeunesse était un oiseau égaré, avec des besoins de tendresse et des envies de cruauté.
Il y a une séquence de télévision où au piano, devant le piano, il y a Juliette Gréco, Françoise Sagan qui chante ses couplets.
Oui, c'était une chanson qui avait été faite pour une pièce de Tennessee Williams que jouait Edwige Feuillère à Paris.
Voilà. Et elle a fait aussi du théâtre, Juliette Gréco. Elle a notamment joué Anastasia, ce qui a été un drame profond parce qu'elle jouait avec Jean Le Poulain qui n'arrêtait pas de faire des farces.
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qui se passait? Je crois qu'il disait n'importe quoi dans son dos quand il fallait être
absolument
sérieux.
Absolument n'importe quoi quand il fallait qu'elle garde son sérieux. Mais comme elle l'adorait, elle lui a pardonné.
Voilà. Et effectivement, Jean Le Poulain, qui au départ d'ailleurs devait être joueur de rugby, il était joueur de rugby, puis un jour, un ballon traverse la cage, il va le chercher, il tombe devant un copain qui est dans un cours de comédie, il l'a suivi en tenue de rugbyman et il a fait de la comédie.
Moi, j'aime bien vos histoires parce que je les découvre.
Et puis, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup compté pour Gréco, c'est Jacques Brel, qu'elle a connu à ses débuts, Françoise Piazza.
Oui, bien sûr, elle a connu Jacques Brel inconnu, qui est arrivé rue de Verneuil et qui lui a présenté quelques chansons. Et elle a choisi « Ça va le diable », en disant « C'est la plus difficile à défendre, donc c'est celle-là que je défendrai et les autres, vous les chanterez vous-même. »
Parce qu'à l'époque, personne ne croyait en Brel.
Personne.
D'ailleurs,
personne.
Il vivait dans une chambre de Pigalle avec un petit carnet où il tenait ses comptes. Et il faisait la vaisselle chez la mère Catherine pour avoir quelques subsides et un repas à l'œil.
Oui, et puis il écrivait ses chansons au Trianon, qui était alors un cinéma, un cinéma permanent, et avec une petite lampe électrique qui restait au chaud pour écrire ses chansons.
Voilà. Et d'ailleurs, il y a une des chansons de Brel que Juliette Gréco n'a jamais cessé de mettre à son répertoire, c'est « J'arrive ».
J'arrive ! J'arrive ! Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois traîner mes os jusqu'au soleil, jusqu'à l'été.
Là aussi, c'est une chanson importante pour Juliette Gréco, Françoise Piazza.
C'est une chanson importante parce que c'est l'ombre de la disparition de tous ceux qu'elle a aimés. Et c'est l'acheminement de chacun d'entre nous vers une fin inexorable.
C'est-à-dire qu'effectivement, elle a perdu beaucoup, beaucoup d'amis. Et elle en parle aujourd'hui ou elle a effacé
pas
ça de sa mémoire ?
Pas du tout. Ce qu'elle me dit toujours, c'est... D'abord, elle ne va pas aux enterrements. Elle me dit, tu comprends, si je vais à l'enterrement, il sera vraiment mort. Donc, je ne veux pas. Et là où elle se rend compte que la personne n'est plus là, c'est quand elle ne peut plus lui téléphoner.
Voilà. Mais Charles Trenet disait la même chose. Il dit, je ne vais pas aux enterrements parce que je ne vais pas à une dernière comme à une première.
Ah.
C'était une belle formule. Et lui avait une spécialité, c'était quand quelqu'un disparaissait, on déjeunait ensemble en parlant des souvenirs joyeux autour de cette personne.
Ça, c'était bien.
C'était autre chose. Mais c'est vrai que... Et j'en reviens à Brel, parce que l'amitié entre Brel et Gréco a été totale.
Totale. Et puis elle passe également par Gérard Joannest.
Oui. Jour, Gérard Joannest, qui est le pianiste de Brel, Brel arrive chez Gréco avec Gérard Joannest. Et ça a été le début d'une grande histoire.
Oui, et en plus, il faut savoir aussi que Joannest n'aurait pas dû accompagner Juliette. Parce que quand Brel a abandonné, il devait partir en tournée avec Barbara. Et Barbara est tombée malade. Et donc, comme Patterson ne pouvait plus accompagner Juliette pour des raisons de santé, on lui a dit « Ah mais attends, il y a Gérard Joannest qui venait d'être libéré, si j'ose dire, par Barbara, et qui est parti avec Juliette, première représentation à Tadoussac au Canada, là où elle a voulu aller, évidemment, pour sa tournée d'adieu. »
Voilà, et effectivement, ils ne se sont plus quittés.
Jamais.
Ils ont vécu ensemble. Et je crois que ça a été un couple fusionnel et complémentaire.
Bah, disons que c'était un couple fusionnel, surtout sur le plan artistique. Hein, vraiment, elle avait énormément d'admiration pour lui. Et puis, elle baignait dans la musique. Gérard jouait du piano du matin au soir. Ça lui convenait bien. Et il était aussi indépendant qu'elle. Il avait sa partie de la maison, elle avait la sienne. Et c'était l'idéal pour elle.
Et quelqu'un qui a aussi beaucoup compté pour Juliette Gréco, c'est Georges Brassens.
Oui.
Ils ont fait un récital ensemble à Chaillot en 66. D'ailleurs, il avait fait lui-même le programme et c'était des liens très forts.
C'est un lien très fort, d'autant plus qu'il a exigé l'égalité sur l'affiche entre Juliette et lui, l'égalité pour les chansons. Lorsqu'elle était allée le voir à l'Olympia, il lui avait dit « Je vais t'offrir une chanson, qu'est-ce que tu as préféré dans tout ce que j'ai chanté ?» Et elle avait dit « C'est chanson pour l'Auvergnat ». Et alors, dans sa loge de l'Olympia, il a écrit le texte sur une feuille et il lui a donné, c'est ainsi qu'elle a chanté quelques jours après à Bobino, chantons pour l'Auvergnat.
Et quand ils ont chanté ensemble à Chaillot, ils venaient de déménager, ils venaient de quitter l'Place Forimont, Georges Brassens, pour s'installer dans un appartement rue Santos-Dumont où il avait un voisin qui était Jacques Brel.
Ah ça, je ne savais pas.
Et ils ont passé de bonnes soirées ensemble. Dans ce livre, vous racontez beaucoup d'autres choses sur Juliette Gréco. C'est un livre où vous racontez cette dernière tournée. Aujourd'hui, elle vit à Ramatuelle, tranquillement, loin de des caméras, loin de tout, et on espère que tout va bien.
Oui, elle va bien. Elle va bien, il n'y a plus Laurence, il n'y a plus Gérard, c'est très difficile. Ses amis viennent la voir. Abdelmalik descend souvent et il lui lit des pages entières, des livres entiers d'Albert Camus, parce qu'ils ont cette passion commune. La chanteuse de jazz, Mélodie Gardot, descend lui chanter une ou deux chansons. Keiko Nakamura, qui est son impresario japonaise, traverse l'océan pour aller la voir. Moi, j'y suis allée récemment. Josiane Savigno y va aussi. Sa petite-fille, Julie Amour, y va aussi, bien sûr. Donc, on essaye qu'elle soit toujours comme ça, entourée d'un cercle d'amour. Vous savez ce qu'elle a dit ? La seule chose à laquelle je tienne, c'est ce cercle d'amour.
Et elle a bien raison. Et nous, on tient à Juliette Gréco et à ce livre, Entrée dans les Lumières, au L'Archipel. Merci de l'avoir écrit, Françoise Piazza. Et merci de défendre celle qui est quand même un symbole de la chanson française.
Merci à vous.
Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaie. Et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée. Merci. À demain.